Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
Et si nous parlions aujourd'hui de la lutte des jeunes femmes au théâtre, de leur désir de s'y tailler une place, de leurs besoins, d'en découdre avec le patriarcat des moyens qu'elles emploient pour gagner leur liberté, si nous parlions de leurs audaces et de leur émancipation. Lorraine de Sagazan a 31 ans. Lorsqu'elle met en scène une maison de poupées, pièce d'Ibsen, spectacle qui se joue très bientôt au théâtre Sylvia Montfort à Paris, elle le fait en transgressant la loi des reins de l'écriture, c'est-à-dire qu'elle intervertit le rôle des personnages. Nora, l'héroïne, devient une femme d'affaires, tandis que Thorvald, son époux, fait la cuisine et garde les enfants. Vive la modernité. Nous ouvrons à sa lettre E comme émancipation, notre encyclopédie en mouvement du théâtre, et nous prendrons aussi le train pour la Normandie avec un focus sur la scène nationale d'Évreux-Louviers. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Often you say that I'm too uptight. I gotta be like her, I gotta walk like him. I'm not cool enough. Am I out of phase? Do you think I'm square? Should I change the brand of my underwear? I'm not cool enough. And you say I'm out, don't you get the art? You gotta screw yourself and be somebody else. I'm not cool enough. Stock of the lonely hearts, I'm not cool enough. So you throw me off and you shirk my world. I'm a worn down girl in a twisted world. I'm not cool enough.
Bonjour, Lorraine de Sagazan.
Bonjour, merci de m'inviter.
Mais je vous en prie, on est ravis de vous recevoir. Alors, deux spectacles à votre actif, en tout cas deux que j'ai vus. Mm-hmm. Démon, de l'auteur contemporain Lars Noren, et Une maison de poupée, d'après Henrik Ibsen. Et déjà, vous vous êtes affirmée comme une artiste qui fabrique un théâtre vraiment, vraiment offensif. Je voudrais savoir quel est le lien que vous établissez entre ces deux textes. Démon, faisant état d'une crise très violente au sein d'un couple, et Maison de poupée racontant l'histoire d'une femme qui échappe au foyer familial, sauf qu'on va voir qu'avec vous, c'est un peu différent. Mmh. Quel est le lien que vous établissez entre ces deux spectacles et ces deux textes, Lorraine de Sagazan ?
J'ai l'impression que ce sont deux textes dans lesquels les protagonistes essayent de se battre pour exister, l'un dans le contexte vraiment du couple, donc quand même à l'intérieur d'un foyer, et l'autre dans un schéma plus familial où il est question de la sphère privée et de la sphère publique, mais quand même aussi pas mal de la sphère privée. Donc disons que c'est comme des huis clos quand même, où l'intimité des protagonistes, donc la petite histoire des êtres qui figurent dans les pièces, vont quand même raconter une plus grande histoire et peut-être commencer à interroger vraiment le regard social.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites grande histoire en fait ?
Une grande histoire, bah, disons plutôt des problématiques, de société. J'ai l'impression que le fait de raconter la vie des gens permet de poser un regard sur la société. En tout cas, nous, on s'est jamais déconnecté de ça tout au long du travail, toujours en se posant la question de le monde dans lequel on évolue. Et à chaque fois qu'on choisit une pièce, je dis on parce que je travaille très collectivement avec les gens de la compagnie, ce sont des problématiques qu'on a traversées et qui ont, je pense que maintenant je peux faire aussi un peu le lien, qui ont un rapport avec notre héritage.
Héritage culturel, héritage familial.
Oui, héritage social aussi, héritage peut-être même psychologique. Et c'est justement d'ailleurs beaucoup le cas dans Une maison de poupée. Et c'est aussi un des axes du travail, puisqu'en effet, on a choisi de modifier la pièce, qui n'était pas du tout un concept de départ, mais qui est arrivé au fur et à mesure des répétitions, en s'interrogeant justement sur notre héritage aussi théâtral, d'ailleurs, de que fait-on d'un texte classique, à quoi nous servent aujourd'hui ces textes classiques. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, dans quel contexte, et en même temps d'interroger aussi les thématiques de la pièce, à savoir l'inégalité homme-femme, et justement en fait cette différenciation sexuelle qui a créé pendant longtemps une différenciation dans la sphère privée et la sphère publique. Mmh. Et nous, on a choisi de re-réfléchir un peu le contexte, en réfléchissant à notre contexte actuel, en fait, la manière dont on redistribue les cartes de la pièce.
Vous avez, je le disais, Lorraine de Sagazan, 31 ans, les acteurs qui sont avec vous dans les représentations, qui sont sur les plateaux, et votre équipe, je pense, être toutes et tous dans ces eaux-là, la trentaine. Mmh. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre génération, qui est la génération qui demain allait prendre les lieux en direction, qui demain allait jouer au Festival d'Avignon, allait jouer au Festival d'automne. Mmh. Qu'est-ce qui vous rassemble? Quels sont vos points communs?
Je pense que c'est toujours une histoire d'héritage aussi. Je crois qu'on fait partie aussi d'une génération qui a beaucoup vu des spectacles importés. Moi, j'ai l'impression d'avoir autant grandi et de m'être autant construite avec des spectacles venus d'autres pays. Alors moi, j'ai eu ce rapport assez fort avec peut-être des metteurs en scène venus d'Allemagne, par exemple, mais j'ai l'impression d'avoir vu autant de spectacles venus d'ailleurs qu'en France. Il y a aussi, je pense, une forme de réaction que sans doute on partage, parce qu'on a vu beaucoup d'écritures de plateau ces dernières années, et je pense que c'est une forme de réaction contestataire, mais dans un sens positif, parce que je pense que c'est très important de contester les valeurs traditionnelles, aussi plus traditionnelles, qu'on reçoit de nos pères. C'est très important d'entrer en conflit avec ça pour se construire. Un rapport au texte qui était quand même, et qui existe toujours, hein, un rapport au texte, on parle même de respect de l'auteur, c'est-à-dire vraiment de penser le texte dans toute sa fidélité à ce qu'a écrit un auteur à l'époque où il l'a écrit. Et j'ai l'impression que ça, c'est une chose que beaucoup d'entre nous remettent en question, non pas pour que ça cesse d'exister, parce qu'il s'agit pas du tout de ça, mais en tout cas d'essayer de se faire justement aussi une place et de voir comment, en déconstruisant, en tout cas c'est mon cas, j'ai l'impression que j'ai besoin de déconstruire aussi mon héritage pour me créer une place et mon identité d'artiste, sans avoir l'impression que je suis le sillon déjà dessiné par quelqu'un.
Racontez-nous comment vous en êtes arrivé à cette hypothèse qui est devenue réalité par rapport à la pièce d'Ibsen, que celui qui gagne l'argent n'est plus Thorvald, ce qui est le cas dans la pièce d'Ibsen, mmh. mais Nora, mmh. qui dans la pièce d'Ibsen est la femme au foyer, mmh. qui à la fin va claquer la porte et s'en aller. Comment vous en êtes arrivé à cette possibilité-là sur la scène du théâtre, dans la représentation Lorraine de Sagazan?
D'abord parce qu'on a travaillé la pièce dans sa version originale et qu'à un moment donné, juste de manière empirique, on s'est rendu compte que pour nous, ça ne fonctionnait plus de raconter les choses de cette manière-là.
Parce que ça ne vous concernait pas? Parce que ça ne parlait pas de vous?
Bah parce que le contexte social la société a changé et que ça nous semblait complètement absurde d'ignorer l'évolution qui a existé ces dernières décennies et le combat qu'avaient mené certaines femmes pour accéder à un certain nombre de droits et en tout cas pour s'approcher le plus possible d'une égalité homme-femme en droit. Et comme Ibsen écrivait lui-même qu'il ne faudrait faire que du théâtre contemporain, ça nous semblait un petit peu absurde de réutiliser ces situations à l'identique, sachant que dans la pièce originale, par exemple, dans la société que lui dépeint, puisque c'est la société de son époque, une femme ne peut pas emprunter légalement de l'argent à son mari. Aujourd'hui, cette société n'est plus la même. Je parle vraiment de en France, parce que évidemment, on pourrait parler de la condition des femmes en Inde ou en Afghanistan, ce serait évidemment pas du tout la même chose. Mais en tout cas, en France, on ne pouvait pas ignorer les tentatives de progrès qui ont été un combat très important aussi et qui font que moi aussi, aujourd'hui, je peux faire de la mise en scène et proposer un spectacle. Maintenant, ce qui nous intéressait très fortement, c'est de se dire, non pas qu'il n'existe plus d'inégalité, mais bien qu'il en existe encore, et de se questionner justement sur cette égalité formelle et sur une égalité réelle, qui, à mon sens, n'est pas justement une égalité. Donc, qu'est-ce qui fait que résistent encore ces inégalités entre les hommes et les femmes, et où sont nichées justement ces inégalités ?
Je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière et vous faire écouter, Lorraine de Sagazan, une archive qui date de 1951. C'était une émission qui était consacrée à la sincérité. Et dans cette émission a été diffusé un extrait interprété par deux acteurs dont je n'ai malheureusement pas retrouvé le nom. Mais en tout cas, ils jouaient un extrait de Maison de Poupée avec les deux protagonistes, Nora et Thorvald.
Les effets comiques de la sincérité au théâtre sont légion. Mais parfois, la sincérité est traitée en tragédie. C'est la scène finale de Maison de Poupée.
Vous voici là, l'un en face de l'autre. N'es-tu pas frappé d'une chose ?
Que veux-tu dire ?
Voilà 8 ans que nous sommes mariés. Réfléchis un peu. N'est-ce pas la première fois que nous deux, tels que nous sommes, mari et femme, nous causons sérieusement ensemble ?
Sérieusement, oui. Qu'est-ce que cela veut dire ?
8 années ont passé, et même plus, en comptant depuis notre première rencontre. Nous n'avons jamais échangé une parole sérieuse sur un sujet grave.
Aurais-je dû t'initier sans cesse à mes soucis que tu n'aurais pas pu soulager ?
Lucie, voilà, tu ne m'as jamais comprise. On a été très injuste envers moi, Thorvald. Papa d'abord, et toi ensuite.
Tu es absurde, Nora. Absurde et injuste. N'as-tu pas été heureuse ici ?
Jamais. J'ai cru l'être, mais je ne l'ai pas été.
Tu n'as pas été heureuse ?
Non, j'ai été gaie, voilà tout. Oh, tu étais si gentille envers moi. Notre maison n'a pas été autre chose qu'une salle de récréation. J'ai été poupée et femme chez toi, comme j'ai été poupée enfant chez papa. Et nos enfants, à leur tour, ont été mes poupées à moi. Je trouvais drôle quand tu jouais avec moi, comme ils trouvaient drôle quand je jouais avec eux. Voilà ce qu'a été notre union, Thorvald.
Il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis. Bien que tu exagères et amplifies beaucoup. Mais à l'avenir, ça changera. Le temps de la récréation est passé, maintenant vient celui de l'éducation.
C'est fou, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lorraine. Moi, je trouve que ce paternalisme dans le jeu, ce paternalisme de l'acteur, qui n'est pas juste un paternalisme d'acteur, qui est, je pense, tout simplement un comportement d'homme par rapport à une femme, est absolument sidérant.
Oui, et c'est très écrit, c'est-à-dire on se rend compte qu'en lisant la pièce, dès le début, dès le premier acte, puisque là c'est la toute fin de la pièce, mais il existe cette chose-là, qui aujourd'hui nous semblait aussi un peu absurde, parce que très, très simplement, si nous, dans ce groupe de travail, on s'interrogeait sur la manière dont on vivait les choses, évidemment cette chose-là, elle n'existe plus dans cette forme. Mais et la question du paternalisme, la question de la société patriarcale, cette chose-là résiste encore. Donc nous, ça nous a vraiment intéressé d'essayer de chercher à l'endroit en fait où ces choses-là résistent.
Mais est-ce que vous pensez qu'un acteur plus âgé d'une génération ancienne aurait pu jouer ce que joue le comédien qui accepte donc de devenir le Thorvald, homme au foyer, gardant les enfants, faisant la cuisine et attendant que sa femme rentre de son bureau où elle occupe un poste de haute fonction.
Oui. Alors, peut-être, pourquoi pas. En l'occurrence, c'est vrai que je trouve que ça fonctionne aussi parce que c'est cette génération de 30-40-naires et que ce sont des questions qu'on se pose beaucoup, nous. À un moment donné, j'avais pensé que monter la pièce dans sa version originale, une des solutions pour le faire, ça aurait été de le monter avec un couple de gens très âgés. Et je m'étais dit que peut-être qu'un jour, je le ferais, de me dire que ce serait assez beau, en fait, que cette prise de conscience de Nora, de sa situation, de sa condition de femme, qu'elle n'avait pas réfléchi pendant assez longtemps, et ce départ de Nora, qui est si connue dans la pièce, que ça pourrait arriver et être assez puissant s'il s'agissait de gens qui ont 80 ans, quoi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je pense que, bon, évidemment qu'il y a des couples qui existent encore de cette manière-là, mais il y a un déplacement quand même qui s'est opéré. Et c'est ce déplacement, d'ailleurs, l'action de repartager le texte est une action presque concrète de déplacement au sein même du groupe. Et la possibilité, en effet, que Nora puisse affirmer une ambition et une puissance, ça pose déjà un certain nombre de questions. Et le fait que Thorvald, lui, essaye d'assumer une non-virilité, ça en pose d'autres. Donc c'est plus qu'une histoire de travail, c'est aussi ces histoires-là de caractéristiques genrées qui nous ont interpellés. Et de questionner aussi la place de l'héros héroïne beaucoup, puisque dans la pièce originale, Nora, c'est vraiment une héroïne. Donc on a presque un soulagement du fait qu'elle s'en aille à la fin de la pièce. Et ça, c'est une chose qui me gênait un peu, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on ne parlait que des femmes exceptionnelles qui arrivent à transgresser une loi. Or, j'avais envie aussi qu'on parle de peut-être quelque chose de plus répandu, de plus commun, de parler d'une femme normale, de lui laisser une place à cette femme normale avec toutes les fragilités qu'elle a, et à cet homme aussi, de questionner aussi cette nouvelle place d'un homme qui tout à coup doit probablement aussi se poser des questions de quelle place puis-je prendre à présent.
Est-ce que la question de l'émancipation féminine, c'est un enjeu premier du théâtre contemporain, Lorraine de Sagazan ?
C'est-à-dire, j'ai l'impression que un des intérêts du théâtre, c'est de pouvoir affronter un certain nombre de problèmes et de proposer une pensée collective. J'ai l'impression que l'émancipation féminine, ça constitue un endroit de questionnement qui est encore très nécessaire. C'est assez dangereux aujourd'hui quand même, parce que comme il y a eu beaucoup de progrès, comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir l'impression que le problème est réglé. Et les inégalités sont beaucoup plus latentes qu'avant. Nous, c'est ce qu'on essaie de montrer aussi dans la pièce. Donc c'est aussi de s'approcher au plus près possible de la réalité des problèmes qui sont posés et de ce pourquoi il est encore difficile aujourd'hui pour une femme de s'affirmer, parce que ça c'est une réalité, et comment on peut accompagner cette émancipation, justement parce qu'il s'agit pas simplement de dire bon bah maintenant on est tous égaux, débrouillez-vous. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même héritage. Moi je me rends compte, je discutais tout à l'heure avec une amie qui me disait que par exemple Christine Angot avait dit qu'elle elle disait écrivain en se nommant, parce qu'elle venait parce qu'elle avait un héritage exclusivement masculin. Donc ça, c'est une chose qui peut faire complètement débat. Moi, je me questionne là-dessus, mais c'est aussi quelle place on fait réellement aux femmes. Comment on accompagne cette émancipation-là? Comment aussi on arrive à cohabiter tous ensemble? Oui, j'ai l'impression que c'est absurde aujourd'hui de dire, enfin ça a toujours été un peu absurde de dire qu'on n'est pas féministe, mais c'est une chose que j'entends souvent, parce que le féminisme, c'est pas, il y a différents courants de féminisme, alors on peut ne pas être d'accord avec certains courants, mais déjà c'est une chose qui a beaucoup évolué, et puis surtout, j'ai l'impression que c'est une non-pensée, c'est peut-être une réaction de dire ça, mais ça n'est pas de la pensée, puisque dire qu'on n'est pas féministe, c'est comme dire qu'on est raciste ou qu'on est homophobe, enfin je veux dire, ça n'a pas de sens, pourtant c'est quand même encore une chose qui existe. Donc oui, j'ai l'impression que, par exemple, je me rends compte que dans juste la dénomination du fait de dire que je fais de la mise en scène, parfois je n'ose pas dire que je suis metteuse en scène ou metteureux en scène ou metteur en scène. Je me dis c'est quand même fou, il y a une hésitation à l'instant même de nommer ce que je fais toute la journée. Et je pense que ça, c'est quand même encore symptomatique. Ça veut dire quelque chose, ça signifie quelque chose dans la prise de parole, dans la manière de le faire. Donc il y a encore bien là quelque chose qui résiste. Et oui, je pense qu'il est nécessaire d'en parler comme d'un autre nombre d'inégalités qui existent encore. Il n'y a pas que celle-là. They say that heaven is like TV, a perfect little world that doesn't really need you. And everything there is made of light. And the days keep going by. France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot. Here they come.
Strange angels singing just for me. Oh.
Pourquoi Lorraine de Sagazan, dans vos spectacles, que ce soit démon ou que ce soit une maison de poupée, est-ce qu'il y a cette tension absolument épidermique qui, dans démon, peut aller même jusqu'à une forme de violence physique? Pourquoi avez-vous besoin d'en passer par ça pour sans doute dire l'émancipation, justement, ou la dureté du chemin qui mène à l'émancipation?
Parce que je trouve que le... Déjà parce que je pense que la vie est violente, que le théâtre est justement un des moyens qui permet d'affronter un certain nombre de problèmes, et que je pense que c'est, en tout cas moi j'essaie d'éviter de m'en détourner à tout prix, pour essayer de créer la possibilité d'une catharsis, voire même peut-être d'une résilience, en tout cas d'un questionnement qui va continuer à accompagner la vie en dehors du théâtre. Je crois aussi que, bon, peut-être d'un point de vue purement jouissif, il y a quelque chose d'assez spectaculaire aussi d'assister à des scènes d'une grande ampleur, en tout cas. Donc dans le conflit, en effet, ça devient très violent, mais aussi dans l'amour, c'est, enfin, il y a quelque chose d'absolu, moi je crois, qui me plaît d'évoquer. Je sais pas si ça répond à la question.
Ça y répond. Il y a autre chose qui me frappe également quand je vois, quand je repense à ces deux spectacles. C'est ce qu'on pourrait rapidement tirer comme conclusion et qui est sans doute faux, mais c'est le regard que vous portez sur le couple. Mmh. Et il y a une phrase qu'a prononcée Yasmina Reza, à laquelle je pense assez souvent. Elle avait dit, je crois, dans un hebdomadaire, les couples me dégoûtent. Mmh. Et je me demande si, à travers ces deux spectacles, Démon et Une maison de poupée, ce que vous dites également, ça n'est pas ça. Le mensonge, c'est le couple. Mmh. Le couple, c'est le leurre. Le couple, c'est le mensonge.
Alors je non, en tout cas moi le couple me dégoûte pas, au contraire, en fait j'ai plutôt envie d'aller détricoter la manière dont ça fonctionne. C'est peut-être aussi un mystère, c'est au contraire quelque chose qui me passionne. J'ai l'impression au contraire que parfois il y a tellement d'amour, en tout cas dans Démon par exemple, il y a tellement d'amour aussi que ça en devient insoutenable, parce que qu'est-ce que c'est que ce couple, à quel endroit on peut se développer aussi individuellement dans cette chose qui devient déjà un petit collectif que le couple. Mais en tout cas, c'est plutôt la manière dont on construit le couple, que le couple ne soit pas une forme arrêtée, comme ça a été le cas pendant, quand même, je pense que c'est ce dont parle Ibsen aussi, au moment où il écrit Une maison de poupée, c'est que le couple est défini par des lois extérieures aux êtres. Moi, ce qui m'intéresse, au contraire, c'est d'essayer de se poser la question de, aujourd'hui, quelles sont les lois que l'on s'invente. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un couple assez moderne, qui a beaucoup changé, quand même, qui se dessine. Donc comment, aujourd'hui, on invente les propres loi de ce couple, comment on se libère d'un certain nombre de carcans. Et je pense que cette émancipation-là, elle arrive forcément par le conflit. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'une quête de vérité, c'est quand même souvent accompagné d'un peu de colère. Et je pense peut-être aussi que à ma place, il y a une revendication peut-être aussi, bon alors un peu inconsciente, mais qui est probablement présente, de quand même trouver sa place, de devoir se frayer un chemin absolument pour pouvoir exister. Parce que il n'était pas question pendant longtemps que je prenne cette place-là ou que je fasse ce métier-là. Je viens pas du tout de ce milieu-là. Donc il y a probablement quelque chose. Il y a une phrase d'Annie Ernaux qui dit, et c'est un peu violent, mais « je veux venger ma race ». Alors elle parle de sa classe populaire, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais j'ai l'impression que pour une femme aujourd'hui qui prend la parole, il y a aussi peut-être un peu de ça.
Et quand on a la parole, et quand on est comme vous, douée de ce point de vue-là, on a le pouvoir, Lorraine de Sagazan?
La question, c'est pas d'avoir le pouvoir, c'est d'avoir la parole.
Vous êtes sûr?
Alors, ce serait d'avoir le pouvoir pour avoir la parole. Mais en tout cas, moi, je veux simplement une place parmi d'autres. J'ai pas envie d'avoir une place au-dessus de celle de qui que ce soit. Mais je veux pouvoir parler et éventuellement être entendu, au même titre que des hommes depuis des générations.
On dit que lorsqu'Ibsen a écrit la pièce au 19e et qu'il a fait partir Nora sur un claquement de porte, ce claquement a résonné dans l'Europe tout entière. Mmh. Tellement c'était scandaleux, cette fin-là. Oui. Cette femme ne pouvait pas quitter le foyer comme ça. Est-ce que Thorvald, part en claquant la porte dans le spectacle qu'on va voir au théâtre Sylvia Montfort.
Non, il part pas en claquant la porte parce que c'est pas une inversion totale, c'est une inversion partielle, c'est plutôt un repartage du texte. Et il est toujours question de Nora comme victime de la société qui continue à l'enfermer et du regard social qui fait toujours pression sur cette femme.
Merci beaucoup,
merci
Lorraine,
à vous.
De Sagazan d'être passé nous voir dans une saison au théâtre. Une maison poupée, donc, je le rappelle, se jouera du 18 septembre au 6 octobre au théâtre Sylvia Montfort à Paris. Et je pense que dès le 7 octobre au matin, vous serez dans le train pour Rouen, puisque vous êtes artiste associé au CDN que dirige là-bas David Bobet et que le spectacle va se jouer à Rouen au CDN du 9 au 13. Alors je vous propose de rester un moment de plus en Normandie, Lorraine de Sagazan. Savez-vous qu'à 50 km de Rouen existe un autre théâtre? C'est le Tangram, scène nationale d'Evreux-Louviers, où on pourra voir cette saison pas mal de spectacles mis en scène par des femmes. Pauline Bureau, Clémentine Berthe, Nathalie Béas, Karine Une serre sont ainsi annoncées. Cette place des femmes dans sa programmation, Christian Mousseau-Fernandez, le directeur du Tangram que nous avons joint par téléphone, la revendique. Qu'on l'écoute.
Constituer une programmation aujourd'hui implique d'inviter plus que jamais, j'ai envie de dire, des femmes et des jeunes artistes femmes dans nos théâtres. Je pense que égalité entre guillemets homme-femme avec lequel on est tous d'accord dans le discours doit vraiment avoir une traduction en tout cas dans nos théâtres et dans la façon dont on programme au sein des scènes nationales, en particulier puisque je dirige une scène nationale. Pour moi, c'est une question sur laquelle je suis très sensible et j'essaye de trouver finalement un équilibre qui bien sûr se fait toujours par le regard artistique d'abord, mais aussi avec cette considération du fait que ce soit porté par des metteuses en scène ou par des autrices pour ce qui est des textes ou même dans la composition même de certaines distributions au théâtre.
Est-ce que le théâtre d'Evreux-Louviers, le Tangram, tisse des liens avec les théâtres voisins en Normandie, qu'il s'agisse des tout petits lieux comme des grandes institutions, comme par exemple le CDN de Rouen?
Travailler tout seul aujourd'hui n'est pas possible. C'est à la fois travailler localement avec, je dirais, des acteurs qui font vivre le territoire autrement sans doute que la scène nationale, mais qui le font vivre. Et puis la proximité évidemment avec Rouen est là. Une proximité, je dirais, qui est d'abord une proximité de valeur entre David Bobet et moi-même, parce que moi je me sens assez proche de ce qu'il défend dans cette idée d'ouvrir nos théâtres à la diversité culturelle et sociale, et que ce soit sur le plateau ou dans la salle, mais aussi parce qu'on est tous les deux dans un autre réseau qui est plutôt régional, qui est un réseau des producteurs associés normands, qui s'appelle le PAN, qui regroupe les centres dramatiques et quasiment la totalité des scènes nationales de la région Normandie, autour de deux projets par an que nous soutenons en production et en diffusion de compagnies qui sont des compagnies normandes. Je pense que la décentralisation aujourd'hui, elle est installée, mais elle n'est pas terminée. Et elle ne sera jamais terminée dans ce sens où l'institution ne se suffit pas pour une décentralisation. Pour moi, la décentralisation, elle est réussie lorsque nos équipements, qu'on soit labellisés ou pas labellisés, sont en ouverture et en relation directe avec des habitants avant d'être avec des spectateurs. Et ça, c'est une façon de penser le projet culturel et la place de la présence artistique sur un territoire qui, à mon avis, doit nous habiter sans cesse. Et pour moi, c'est ça la décentralisation et c'est ça qu'il faut qu'on défende tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Your many toys, you don't own me. Don't say I can't go with other boys.
Ami de Normandie et amis de partout, vous pouvez et même vous devriez podcaster une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Jean Guilin, Meige, Vanessa Nadjar, Ghislaine David, Joël Gaillot vous saluent, bientôt 16h sur France Culture, c'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine De cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.